Nous nous préparons actuellement à célébrer les fêtes divines de printemps. Peu d'églises dites chrétiennes aujourd'hui observent ces fêtes. La plupart des gens croient que ces fêtes sont périmées, obsolètes ou abolies, ou au moins seulement pour les juifs, pas pour les non-juifs. Alors que la Bible révèle une autre histoire complètement. Cela nous amène à notre croyance fondamentale numéro 13, les fêtes divines. Je vais vous lire cette croyance fondamentale et comme nous le faisons dans cette série, nous allons ensuite le prendre phrase par phrase et approfondir en regardant des passages bibliques qui appuient chaque phrase de cet énoncé. Voici l'énoncé de cette croyance fondamentale, le numéro 13, les fêtes divines. Les sept fêtes annuelles sont des moments privilégiés pour s'assembler. Données à l'ancien Israël par Dieu à travers Moïse et observées par Christ, les apôtres et l'Église du Nouveau Testament, ces fêtes sont encore aujourd'hui des observances commandées. Ces fêtes révèlent le plan de salut de Dieu pour l'humanité et elles continueront à être célébrées pendant le millénium. Et puis il y a une série de passage biblique qui suit, qui sont les appuis bibliques pour cette croyance fondamentale. Alors, comme j'ai dit, nous allons prendre phrase par phrase et nous regardons les passages bibliques qui appuient, qui étaient ce que nous avons lu. La première phrase que nous avons lue, c'est que les sept fêtes annuelles sont des moments privilégiés pour s'assembler. Et c'est vrai que lorsque nous entamons la liste des fêtes qui se trouve dans Lévitique chapitre 23, nous tombons tout de suite sur un élément de l'observance de ces fêtes que nous ne devons pas oublier. Lévitique chapitre 23, à partir du verset 1. Lévitique 23, c'est un de ces chapitres qu'on devrait connaître. On devrait savoir que dans Lévitique 23, nous avons la liste des fêtes de l'Éternel. C'est un des chapitres où nous avons cette liste. Et parmi les plus utiles à consulter. Lévitique 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Pour les fêtes annuelles de l'Éternel, et comme la fête hebdomadaire que nous avons, le sabbat, ces jours sont appelés des saintes convocations. C'est-à-dire, on est convoqué à s'assembler. Nous devons venir ensemble quand nous le pouvons, si nous ne sommes pas trop loin ou s'il n'y a pas un problème de santé ou autre qui pourrait nous séparer, nous devons venir ensemble. Et ce n'est pas seulement pour être enseigné, quoique ça fasse partie de la raison de ce rassemblement, mais nous devons aussi fraterniser les uns avec les autres. Les sept fêtes sont des moments privilégiés pour s'assembler, pour être ensemble, ensemble avec les personnes qui ont les mêmes convictions, les mêmes croyances, qui ont les mêmes valeurs et les mêmes buts dans la vie. Dans Exode chapitre 23, Chapitre 23, verset 14. Exode chapitre 23, verset 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Nous savons qu'il y a 7 fêtes, mais regroupées en 3 saisons, 3 fois dans l'année. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans tes champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Donc, dans ces 3 saisons, encore une fois, on doit se présenter. On doit se présenter à l'endroit ou dans un endroit où l'Éternel a choisi de placer son nom et on doit être en groupe. On doit être ensemble. Quand il s'agit de Deutéronome chapitre 16, où nous avons une référence à la dîme de la fête, nous voyons, c'est souligner que ce sont des moments de fraternisation, de discuter ensemble, d'apprécier la compagnie des uns des autres. Deutéronome chapitre 16, verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Nous devons nous réjouir ensemble. Nous passons du temps ensemble. Nous sommes dans la joie ensemble. Verset 14 répète plus ou moins la même chose. Tu te réjouiras à cette fête. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur, ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Nous devons être joyeux avec tous les autres membres qui sont présents avec nous, avec les membres de nos familles. Nous devons passer du temps avec nos enfants, avec nos conjoints, avec d'autres membres de la famille physique. Et nous devons passer du temps avec ceux qui font partie de l'assemblée spirituelle, y compris ceux qui seraient nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. Ce sont des moments de partager, si nous avons un surplus, de partager ce que nous avons avec d'autres personnes et de nous réjouir ensemble. Dieu met l'accent sur le fait d'être en groupe ensemble. Maintenant, nous sommes dans cette période de COVID. Pour certains d'entre nous, nous n'avons pas la possibilité de nous réunir facilement. Et nous pouvons, ça serait nuisible, mais il se peut qu'il y ait des habitudes qui s'établissent où nous perdons l'habitude d'aller à l'Assemblée. Et on prend l'habitude simplement de regarder un sermon sur Internet. Si c'est tout ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous devons faire. Mais si nous avons la possibilité de nous assembler, de revenir ensemble pour fraterniser, eh bien c'est très important aux yeux de Dieu. Nous devons nous présenter, en particulier, nous parlons dans le contexte des fêtes annuelles, mais le sabbat, c'est une fête également. Et nous devons nous assembler ce jour-là. Dans Actes chapitre 2, à propos de la fête de la Pentecôte, le verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est un passage que nous connaissons par cœur. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et nous avons cette responsabilité encore aujourd'hui de nous assembler avec nos frères et sœurs. Quand nous avons si c'est possible, nous devons nous assembler pour passer du temps ensemble. C'est une façon d'adorer Dieu même que de fraterniser les uns avec les autres. Nous connaissons le passage dans Hébreux chapitre 10. Rappelons-nous Hébreux chapitre 10, verset 25. Et ça pourrait être le contexte d'aujourd'hui où peut-être quelques-uns peuvent perdre l'habitude de s'assembler avec d'autres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Eh bien, nous voyons s'approcher le jour encore plus que ce qu'il le faisait il y a 2000 ans. Ça pourrait être dans un avenir plus ou moins proche maintenant. Et nous ne devons pas abandonner ou perdre l'habitude de nous assembler, de nous présenter aux saintes convocations comme Dieu le prévoit. Et nous avons la responsabilité de nous exhorter. Une exhortation, c'est un encouragement. De s'encourager mutuellement, de persévérer dans la bonne voie, de surmonter les obstacles, de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser distraire de notre but, de ne pas se laisser décourager par ce qui se passe autour de nous. Nous avons un rôle important à jouer les uns envers les autres et nous ne devons pas l'oublier. Dans Philippiens chapitre 1, ça c'est un passage que nous citons moins dans ce contexte, mais c'est important. Philippiens chapitre 1, tout au début de cet épître, cette lettre que Paul a écrite aux gens de Philippe, la ville de Philippe, il dit, verset 3, Philippiens chapitre 1, verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Notez bien cette phrase-là, on va revenir dans un instant. « De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la dévance et la confirmation de l'Évangile, que vous tous participez à la même grâce que moi. » Nous notons là, au verset 7, qu'il parle de l'Évangile, la défense et la confirmation de l'Évangile. Et plus haut, au verset 5, il a été question de l'Évangile également. Mais les mots qui précèdent, la part que vous prenez à l'Évangile, le mot dans le grec, c'est koinonia, qui est le plus souvent, dans le Nouveau Testament, traduit par fraternisation. Le fait d'être ensemble en tant que frères et de passer du temps ensemble, de discuter, d'apprécier la compagnie des uns des autres. Alors, c'est comme ça que la plupart des versions de la Bible en anglais traduisent ce mot. Et le même mot est traduit par fraternisation, fraternité, dans d'autres passages en français. Mais si nous substituons le mot fraternisation, il ne cesse de manifester ma joie, dit Paul, au sujet de la fraternité de l'Évangile, ou la fraternisation dans l'Évangile. Et ça, c'est comme ça qu'il a décrit les moments passés ensemble avec ses frères de l'Église à Philippe. La fraternisation, la fraternité de l'Évangile. Nous sommes une fraternité, un ordre de frères, et nous apprécions le temps que nous passons ensemble. Cette fraternité dans l'Évangile est vraiment importante. Nous avons, en tant que frères et sœurs de l'Église de Dieu, des choses les plus importantes de la vie. Nous avons ces choses en commun, des expériences en commun, des épreuves en commun, des joies en commun, que nous ne pouvons partager que entre nous. Si on essaie de discuter de notre parcours spirituel avec quelqu'un qui ne connaît pas l'Église, ils ne vont pas comprendre. Ça risque même de les déranger. Il y a des choses que nous ne pouvons partager qu'entre nous. Et nous devons bien profiter de ces moments de pouvoir faire cela. À l'approche de la Pâque, à l'approche de la fête des pains sans levain, en moins de 2 mois maintenant, nous pouvons anticiper la possibilité d'être ensemble et de s'encourager mutuellement, de pratiquer cette fraternité de l'Évangile, la fraternisation de la bonne nouvelle de ce que Dieu est en train d'accomplir sur terre et dans nos vies, les uns et les autres. Je voudrais prendre un autre passage dans ce contexte de fraternité, dans Jude, juste avant Apocalypse, Jude, verset 12. C'est peut-être un des livres que nous lisons moins souvent que d'autres, l'Épître de Jude. Il n'y a pas de division de chapitre, donc nous allons au verset 12. Il parle de gens qui se comportaient mal et qui voulaient s'assembler quand même avec les frères et sœurs de l'Église. Et en parlant d'eux, il a dit au verset 12, « Ce sont des écueils dans vos agapes. » Ce sont des écueils dans vos agapes. « Faisant imprudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau poussées par des vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses sur la mer, etc. » Donc, il n'avait pas une très bonne opinion de ces gens qui étaient, il est décrit comme des écueils dans vos agapes. Vous reconnaissez le mot agape, c'est agapé, c'est l'amour, un amour altruiste en grec. Et c'est un peu difficile de traduire cette formule vers le français. Beaucoup de versions de traduction en français ont simplement laissé le mot en grec. Ce sont des écueils dans vos agapes. Ailleurs, c'est traduit par repas de charité. Ou en anglais, encore une fois, la plupart des versions en anglais le traduisent par « fête d'amour ». Ce sont des fêtes d'amour. C'est une façon de décrire les fêtes divines. Ce sont des fêtes d'amour envers Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, et les fêtes d'un amour exprimé entre nous, les uns pour les autres, une appréciation mutuelle, un soutien mutuel. Quand nous venons ensemble pour célébrer les fêtes divines, que ce soit le sabbat ou que ce soit une fête annuelle, ce sont des fêtes d'amour. Et l'amour doit régner là où nous sommes assemblés pour adorer l'Éternel. Pensons à nos assemblées de fêtes comme des fêtes d'amour, des agapes. C'est comme ça que c'est décrit dans le Nouveau Testament. Nous partageons des repas de charité, comme c'est traduit dans quelques versions en français. Nous partageons souvent un repas. et nous apprécions la compagnie des uns des autres. Je pense que dans l'année, spirituellement, nos moments les plus appréciables et appréciés sont des moments quand nous pouvons être ensemble pour adorer Dieu et pour apprécier la compagnie des uns des autres. L'encouragement mutuel d'être ensemble avec des gens qui poursuivent les mêmes buts et qui ont les mêmes valeurs dans la vie. Alors, la première phrase de cet énoncé des croyances, les sept fêtes annuelles sont des moments privilégiés pour s'assembler. Et c'est vrai, ce sont nos agapes. Deuxième phrase, donnée à l'ancien Israël par Dieu à travers Moïse et observée par Christ, les apôtres et l'Église du Nouveau Testament, ces fêtes sont encore aujourd'hui des observances commandées. Dieu nous ordonne de célébrer ces fêtes. Et nous avons déjà lu dans Exode 23 l'ordonnance. Trois fois dans l'année, tu auras des saintes convocations. Tu vas t'assembler ensemble. Et ces fêtes sont ordonnées par Dieu et étaient observées par Jésus-Christ, par les apôtres et par l'Église du Nouveau Testament. Nous avons ces références clairement dans le Nouveau Testament. Alors, rappelons-nous Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Ce sont de bons passages à marquer dans les lignes de votre Bible pour que vous puissiez retrouver ces passages facilement si jamais quelqu'un vous pose la question. Comme c'est souvent le cas pour moi quand je voyage au nom de l'Église, les gens qui ont entendu parler de notre association demandent, mais pourquoi vous vous assemblez le sabbat? Le samedi. Pourquoi vous vous assemblez pour ces fêtes que je n'ai jamais entendu parler avant? Et c'est utile de pouvoir vite mettre le doigt sur ces différents passages. Luc chapitre 2, verset 41, par exemple. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Les parents de Jésus allaient chaque année répondre à cet appel de Dieu de venir dans le lieu que l'Éternel aura choisi pour y faire résider son nom, à la fête de Pâques. Et lorsque Jésus est arrivé à l'âge de 12 ans, quand on commençait la vie religieuse sérieusement, eh bien, il y monta également selon la coutume de la fête. Jésus, depuis son enfance, observait les fêtes de l'Éternel. Dans Jean chapitre 7, nous avons un autre exemple. Jean chapitre 7, verset 2. Jean chapitre 7, verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères à Jésus lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Et vers le milieu de la fête, verset 14, Jésus monta au temple et il enseignait. Même au risque de sa vie, parce qu'il dit c'est dangereux, je ne peux pas monter, il ne pouvait pas monter ouvertement, parce que ses ennemis voulaient lui mettre la main dessus, voulaient le faire périr, tuer. Mais il est monté quand même, secrètement, il a pris des précautions. Il n'est pas monté avec ses frères, on aurait guetté sa famille pour essayer de le trouver, de l'épingler, comme on dit. Mais il est quand même monté. Vers le milieu de la fête, il s'est montré même publiquement et il a enseigné dans le temple. C'est clair que les fêtes étaient importantes aux yeux de Jésus-Christ. Il est monté même au risque de sa vie. Il voulait répondre, il voulait obéir à cette instruction qu'il avait lui-même donnée, d'ailleurs. C'est étrange de réfléchir au fait que la plupart des églises de confession chrétienne aujourd'hui croient que ces fêtes de l'Éternel sont pour les Juifs, quand c'est très clair dans le Nouveau Testament, ce que les chrétiens regardent comme la parole de Dieu, même s'ils n'acceptent pas toujours l'importance de l'Ancien Testament, moi, le Nouveau Testament, tout le monde est d'accord là-dessus, on voit clairement qu'on doit continuer de respecter ces jours, avec une compréhension différente comparée à ce qu'Israël y voyait, ce qu'il pouvait comprendre. Mais c'est très simple de voir dans le Nouveau Testament que l'Église primitive, avec les apôtres qui les guidaient à le faire, continuer d'observer, de respecter ces fêtes divines, avec une nouvelle compréhension, approfondie certainement, mais les mêmes jours. En fait, c'est seulement à la lumière du Nouveau Testament que nous pouvons pleinement comprendre le sens des fêtes que Dieu y avait mis depuis le début, mais qu'Israël n'a pas pu comprendre. Alors maintenant que nous pouvons clairement comprendre les fêtes de l'Éternel, ben c'est le moment quand les chrétiens veulent arrêter de le faire. Non, ce n'est pas pour nous. Ben c'est précisément pour nous, de manière beaucoup plus importante et profonde que ce ne fut le cas pour les Juifs. Pour eux, c'était une question pour les Israélites de leur vie physique sous l'égide de Dieu. Pour nous, c'est de l'éternité, c'est le plan de Dieu de salut pour l'humanité. Il y a une portée beaucoup, beaucoup plus large maintenant que nous pouvons voir et comprendre dans les fêtes de l'Éternel. Nous pouvons comprendre les fêtes maintenant. C'est surtout maintenant qu'il faut continuer de les observer. Et je vous ai déjà parlé du fait que, je me souviens, M. Armstrong disait souvent, quand j'étais étudiant à Pasadena, il disait, si on arrêtait d'observer ces jours, on oublierait leur signification. Et j'ai vu la vérité de cette phrase avec mes camarades de classe, qui comprenaient très bien pendant qu'on était ensemble, là, ils comprenaient, on discutait, on avait des conversations concernant la signification des fêtes. Et quand je vois maintenant ce qu'ils disent, je vois sur les médias sociaux et autres, je maintiens quelques contacts avec ceux qui sont acceptables encore, eh bien, ils ont oublié. Ils sont retournés à là où ils étaient avant de venir à la vérité. Et cette compréhension s'est refermée sur eux. Ils ne comprennent plus. C'est très important de continuer d'observer ces jours. Nous avons déjà cité Actes chapitre 2, verset 1, où tout le monde était assemblé après la mort et la résurrection de Christ. Ils étaient assemblés pour célébrer la fête de la Pentecôte. Dans 1 Corinthiens 5, nous avons une référence à une autre fête, 1 Corinthiens 5, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, Paul dit aux Corinthiens, « Célébrons donc la fête. » Quelle fête? « Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Célébrons donc la fête où il n'y a pas de levain. C'est quelle fête? La fête des pains sans levain. Paul écrivait à des Corinthiens, des Grecs, non pas des Juifs, des Grecs qui n'auraient pas connu les fêtes juives, dites juives, auparavant. Et à eux, à ces chrétiens d'origine païenne, d'origine grecque, Paul leur dit, célébrons cette fête. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et là, nous avons non seulement un rappel qu'il faut continuer de respecter ces fêtes, mais nous avons une explication de la compréhension spirituelle, plus étoffée que ce que les Israélites pouvaient avoir. Le levain représente la malice et la méchanceté, le péché. Et les pains sans levain représentent la pureté et la vérité, l'obéissance à Dieu, le respect de la loi, des commandements de l'Éternel. L'Église primitive, 20 ans après la mort et la résurrection de Christ, au moins, ils persistaient. Même ceux qui étaient d'origine païenne, eh bien, ils observaient les fêtes de l'Éternel, les fêtes divines. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 8, Paul est en train d'expliquer certaines choses à l'Église de Corinthe, cette Église surtout d'origine grecque, païenne. Et il dit au verset 8, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Pourquoi mentionner un jour que personne n'observait plus? Surtout ceux qui ne l'ont pas connu auparavant, avant de devenir chrétien. La Pentecôte, non, oui. Il voulait rester là jusqu'à la Pentecôte pour pouvoir célébrer ce jour avec la congrégation à Éphèse avant de partir. Polis, je dois rester ici jusqu'à cette fête-là. Et après, je pourrai continuer mes périples. Revenons dans Actes chapitre 18. Actes chapitre 18, verset 21. Actes chapitre 18, verset 21. Les gens à Éphèse le prièrent de prolonger son séjour, verset 21. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. » Ce n'est pas simplement pour marquer le temps. Parfois, les gens qui veulent nier ces faits, ils disent, non, il a mentionné ça comme le premier du mois ou une autre chose, il n'y a pas de signification religieuse. Mais là, Paul a dit, il faut que je célèbre la fête à Jérusalem. Il fallait qu'il célèbre la fête. Il a dit qu'il reviendrait vers eux si Dieu le voulait. Et il partit d'Éphèse. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 16. Actes chapitre 20, verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Il était tellement pressé qu'il ne voulait pas s'arrêter à Éphèse, il ne voulait pas perdre le temps parce qu'il voulait être à Jérusalem pour la célébration de la Pentecôte. Encore une preuve que les apôtres, l'Église primitive, l'Église au premier siècle, observait ces fêtes. C'est une ordonnance de Dieu. Jésus-Christ l'a observé. Nous avons l'exemple des apôtres qui l'ont observé bien longtemps après la mort et la résurrection de Christ. Et nous avons des exemples de l'Église qui était exhortée à observer ces fêtes par les apôtres. 20 ans, 30 ans ou plus après la mort et la résurrection de Christ. Non, ces fêtes sont toujours en vigueur et doivent toujours être observées par les chrétiens qui veulent obéir à ce que Dieu dit dans sa parole. Données à ancien Israël par Dieu à travers Moïse et observées par Christ, les apôtres et l'Église du Nouveau Testament, ces fêtes sont encore aujourd'hui des observances commandées. Troisième phrase dans l'énoncé de croyance. Ces fêtes révèlent le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Ces fêtes révèlent le plan de salut de Dieu pour l'humanité. C'est assez vague dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, des églises chrétiennes du monde, que Dieu ait un plan. Un plan, peut-être, bon, il veut sauver tout le monde, Satan est intervenu dans le jardin d'Éden, il a tout cassé, Dieu a dû chercher un plan B, bon, je vais envoyer mon fils dans le monde pour payer l'amende des péchés, pour sauver les gens. Mais en fait, c'est beaucoup plus délibéré que cela. Dans Matthieu chapitre 25, verset 34, Matthieu chapitre 25, verset 34, c'est une des grandes et précieuse vérité que nous comprenons de la Bible, que Dieu a un plan, qu'il avait un plan avant même de commencer la création des êtres humains. Très certainement même avant de commencer la création de la matière, de l'univers connu, Dieu avait un plan. Il a toujours un plan et son plan s'accomplit exactement comme il avait prévu depuis le début. Matthieu 25, verset 34. Verset 31, il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à ta droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » La fondation du monde. Au moment quand Adam et Ève ont été créés, où le monde a été reformulé, récréé, il y avait un royaume de Dieu en préparation. Dieu savait exactement ce qu'il allait faire. Ce plan restait, se déroulait à travers toute l'histoire que nous avons dans l'Ancien Testament, pendant tout le temps du Nouveau Testament, depuis 6000 ans, au moins, et probablement bien plus que cela. Le royaume de Dieu est en préparation. Et la bonne nouvelle du royaume concerne non seulement le fait que ce royaume va être établi sur terre, mais concerne aussi comment nous devons faire, comment nous pouvons faire pour y entrer. Et comment faire pour y entrer nous est rendu explicite par la célébration de ces fêtes. Chaque fête révèle une étape supplémentaire dans le plan de Dieu. Psaume 33, verset 11. Psaume 33, verset 11. Dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Dieu ne fait rien sans avoir un but en tête. Il ne fait pas des choses au hasard. Il a toujours une raison pour chaque chose, chaque élément qu'il accomplit. Et c'est vrai pour son plan de salut pour l'humanité. Ces faits révèlent le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Prenons quelques exemples. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Prenons le verset 17 pour ne pas couper la phrase. Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La Pâque nous explique le rôle de Jésus-Christ. Comme l'agneau devait être sacrifié dans l'Ancien Testament pour sauver la vie physique des gens, nos vies spirituelles, notre futur, notre éternité, est rendu possible par le sacrifice de Jésus-Christ. La Pâque est riche de symbolisme dans ce que le sacrifice de Christ a accompli. Christ, comme un agneau sans défaut, l'accomplissement ultime de la Pâque, même de l'Ancien Testament, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Maintenant, les symboles ont changé pour nous rapprocher encore plus directement de la signification de la Pâque du Nouveau Testament. Même jour, symboles différents. La Pâque nous révèle cette première étape. Nous ne pouvons pas commencer dans la voie du salut sans le sacrifice de Christ, qui nous blanchit de nos péchés. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, nous avons lu déjà, mais là nous avons le lien spirituel avec la fête des pains sans levain. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, le péché, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nous devons remplacer le péché par la justice, par l'obéissance à Dieu. Nous n'arrivons pas parfaitement à le faire, nous devons revenir à Dieu de temps en temps pour encore demander pardon, d'être lavés de nos péchés de nouveau, et quand nous nous repentons sincèrement, il applique le sacrifice de son Fils, et nous sommes blanchis de nos péchés. La fête des pains sans levain nous révèle une étape. Après avoir reçu le sacrifice de Christ sur notre compte par le baptême d'eau, eh bien nous devons vivre nos vies dans le processus de remplacer le mal par le bien, de remplacer le péché par la justice. Concernant la Pentecôte, Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques chapitre 1, verset 18. Quelques pages auparavant, Jacques chapitre 1, verset 18. « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » La fête des prémices, la Pentecôte dans l'Ancien Testament, a un lien avec l'existence et le rôle de l'Église aujourd'hui. Ça, c'est une autre étape dans le plan de salut de Dieu. Seulement quelques personnes, les prémices sont attirées à Dieu maintenant. L'Église est petite. Dieu n'essaie pas de sauver toute l'humanité maintenant, ça c'est pour une époque à venir. Il travaille avec quelques personnes maintenant, en qui il crée son caractère, développe son caractère, pour que ces personnes puissent assister Jésus-Christ dans l'établissement du royaume de Dieu et la gérance du royaume de Dieu sur terre. La fête de la Pentecôte nous apprend une autre étape dans le plan de salut de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous avons une autre référence au fait. 1 Corinthiens 15, verset 22. Nous avons à la fois ici la signification de la fête de la Pentecôte et aussi la fête des trompettes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Là, nous avons la signification de la Pentecôte. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Là, nous avons la signification de la fête des trompettes. C'est même noté que le Christ va revenir au son de la trompette, au cri d'un archange. La fête des trompettes nous révèle une autre étape. Nous sommes dans l'attente maintenant du retour de Jésus-Christ. Et il va revenir, établir le royaume de Dieu sur terre. Et finalement, le royaume de Dieu ne sera jamais détruit, ne sera jamais remplacé par autre chose, va durer jusqu'à l'infini. Colossiens chapitre 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » C'est l'ombre des choses à venir. Ces pratiques, les fêtes, sont l'ombre des choses à venir. La fête des trompettes est une ombre des choses à venir. La fête des expiations, une ombre des choses à venir. La fête des tabernacles, le dernier grand jour. Ce sont des illustrations d'événements qui doivent encore se produire. Et puisque ces choses ne sont pas arrivées encore, il est très important pour nous de persévérer, de continuer à les commémorer à l'avance chaque année, pour ne pas perdre ces éléments de vérité de notre esprit. Ces fêtes révèlent le plan de salut de Dieu pour toute l'humanité. Et si nous arrêtons de les observer, nous allons oublier le plan de Dieu. C'est vrai, je l'ai vu des centaines de fois maintenant dans ma vie. Des personnes qu'ils connaissaient bien, qui comprenaient bien, et puis ils étaient convaincus, fourvoyés ou autres, que ce n'est plus nécessaire. Et maintenant, ils sont de nouveau dans l'ignorance concernant le plan de Dieu. Ils ne savent pas trop ce qui va arriver dans l'avenir. Alors que la Bible le révèle très précisément, et nous pouvons savoir avec certitude ce qui va se passer dans l'avenir. Et quatrième phrase dans cet énoncé de croyance, « Elles continueront à être célébrées pendant le millénium. » Les fêtes de l'Éternel vont continuer à être célébrées pendant le règne millénaire de Jésus-Christ sur terre. Encore une fois, si ce sera le cas dans l'avenir, pourquoi est-ce que ça ne serait pas le cas maintenant? L'entraînement, une partie de l'entraînement nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans la famille de Dieu, c'est de commémorer et de respecter ces fêtes. C'est une étape nécessaire. Les fêtes ne sont pas seulement une chose du passé et de la présente, mais aussi de l'avenir. Et nous avons plusieurs références à cela dans la Bible. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 14. La Pâque, que nous célébrerons dans quelques semaines maintenant, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ va participer à la Pâque avec ses disciples dans le royaume de Dieu, après son retour. Et non seulement eux, mais toute la population de la terre va être éduquée pour comprendre la signification de la Pâque, le précieux du sacrifice de Jésus-Christ. Et va être observée, cette fête sera observée dans le monde entier, puisque chaque être humain s'est engagé dans ce processus du développement du caractère divin en lui, d'être pardonné de ses péchés, de persévérer dans la bonne voie et de pouvoir entrer dans la famille divine, dans le royaume de Dieu. Un autre passage que nous pouvons prendre, c'est Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14, verset 16. Zacharie chapitre 14, verset 16. Nous sommes clairement ici dans le contexte du règne millénaire de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est établi sur terre. Verset 1 de Zacharie 14. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ça n'a jamais eu lieu encore. Ça ne peut être, le contexte ici ne peut être que le retour de Jésus-Christ et ce qui va arriver après. Verset 12 parle de ceux qui se seront battus contre Jérusalem. Et puis verset 16. Zacharie chapitre 14 verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Il n'y a jamais eu un moment où ça a eu lieu. Ça ne peut être que prophétique du retour de Jésus-Christ et l'établissement de son royaume sur terre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations, qui ne monteront point pour célébrer la fête des tabernacles. On ne peut pas être plus clair. C'est pas monter pour n'importe quoi, c'est monter pour célébrer la fête des tabernacles. Toutes les nations vont devoir envoyer des délégués pour célébrer la fête des tabernacles à Jérusalem. Sinon, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de culture, les plantes ne vont pas pousser, on ne pourra pas se nourrir. La fête des tabernacles et les autres fêtes, nous avons la référence à la Pâque, la fête des tabernacles, ces fêtes seront observées de nouveau après le retour de Jésus-Christ, après l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Oui, ces fêtes ne sont pas une chose du passé, frères et sœurs. Les fêtes sont en vigueur encore aujourd'hui et seront encore en vigueur dans le monde à venir. Observer ces fêtes est une étape, c'est un élément absolument incontournable dans le développement d'un chrétien au point où il peut recevoir la vie éternelle de la part de Christ à son retour. Nous sommes dans la période maintenant de planification pour l'observance des fêtes de printemps, comme j'ai dit seulement à quelques semaines maintenant. Réfléchissons à ces choses, à la signification des fêtes. Examinons-nous comme nous le devons chaque année à l'approche de la Pâque. Enlevons le levain de la maison et veillons à enlever le péché si ça se trouve encore dans nos vies, quand nous trébuchons. Et frères et sœurs, gardons précieusement cette connaissance des fêtes de l'Éternel. Gardons cette connaissance précieusement. Il y a des gens qui étaient parmi nous, qui l'ont dédaigné, et ils ont perdu cette connaissance. Ils se sont fourvoyés, aveuglés de nouveau. Ils ne voient plus clair spirituellement et nous ne voulons pas que ce soit notre sort. Planifions notre participation. Planifions d'honorer Dieu en nous rapprochant de lui et en fraternisant pour nous rapprocher davantage des uns des autres, pour nous épauler et nous encourager mutuellement. C'est ainsi que nous pourrons profiter pleinement des avantages spirituels que notre Créateur nous donne, en nous faisant observer ces fêtes divines. Bon sabbat.